Lac, foule, barque, pêcheur, eau, poisson, on se croirait en pleine saison, au plus fort d'un week-end ensoleillé dans une de nos belles villes de France. On pourrait très bien, avec ce texte de Luc, où Jésus appelle ses disciples au début de son ministère, s'imaginer même sur notre cher Pâquier, ou plutôt un peu plus loin de la foule. Vous savez, là où les quelques pêcheurs du lac embarquent encore. Alors, pour partager avec vous sur ce texte de ce matin, j'ai décidé de choisir un style un peu scolaire et didactique. Le fameux introduction, développement en trois points et conclusion. C'était l'usage de toutes les prédications d'une certaine époque. Vous l'avez peut-être vécu avec vos pasteurs précédents, mais aujourd'hui, c'est vrai que ce style est devenu bien rare. Mais comme aucune méthode n'est à bannir pour annoncer la parole de Dieu, allons-y gaiement. En méditant ce texte, trois enseignements, trois encouragements nous sont donnés. Le premier, nous avons besoin de recul pour écouter la parole de Dieu. Jésus est au bord du lac et une foule nombreuse l'entoure. Tout près de lui, dit le texte. Toutes ces personnes attendent avec impatience son enseignement. Puis, Jésus monte dans une barque. « Éloigne-toi un peu du bord, dit-il à Simon. » Et c'est là seulement, éloigné de la foule, qu'il se met à enseigner. Ce mouvement dans l'espace peut être pris comme anodin, ou bien une fine stratégie de discours, je dois me tenir en retrait pour être vu de tous. Mais plus fin encore, Jésus, parole faite homme, se recule pour que les foules puissent le recevoir avec la distance nécessaire. Notre distance à nous aujourd'hui se place entre nous-mêmes et la lecture que nous faisons de la parole. Pourquoi ai-je besoin de distance pour entendre la parole de Dieu? Alors on peut dire d'une façon imagée, quand j'ai mes lunettes sur le nez, c'est là où je ne les trouve plus. Quand j'ai le nez dans mes problèmes, je sais que je ne pourrai en sortir. Si je suis noyée dans un conflit, impossible de le résoudre. Ou bien, vous qui ici êtes nombreux à apprécier la beauté des paysages, vous savez bien que c'est en s'éloignant, en prenant de la hauteur, que vous pourrez avoir les meilleurs points de vue sur le Parmelan, le Semnose ou la Tournette. Eh bien, pour la Bible, c'est un peu la même chose. Avoir un esprit fermé pour lire la Bible, ou pire encore, des œillères, n'est pas conseillé. L'Évangile nous appelle à ouvrir sa vision, même jusqu'à 360 degrés, afin que cette parole puisse nous toucher. Nous devons avoir une lecture ouverte. Alors, que veut dire cela? Positive attitude, diraient nos amis anglophones. Il ne s'agit pas de lire la Bible de plus loin, bien entendu. Mais si ma relation à la Bible se limite à ma maison, à mon salon, entre mon oreiller douillé et mon chat qui ronronne, la parole va vite s'assécher, et moi avec. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans ce cas, la parole ne fera que se résumer à ce que j'ai envie d'entendre. En revanche, si je prends la peine de lire la Bible en communauté, au culte, en famille, entre amis, de l'écouter à la radio, à la télévision, eh bien, je pourrais être bousculée, étonnée et questionnée par cette parole. Dimanche dernier, après le culte, quelques-uns se sont retrouvés pour parler de l'amour humain, de l'amour que Dieu nous donne, avec le texte de 1 Corinthiens 13. Eh bien, au dire des présents, Lire la Bible à plusieurs est stimulant, dérangeant, et le partage déculpe les dons pour chacun. Pendant que les adultes dissertaient sur l'amour, les adolescents du caté cheminaient le matin avec la lecture de la Bible et l'après-midi avec des débats théologiques enflammés. Voilà la richesse d'une communauté réunie autour de la parole. Pouvoir s'encourager ensemble. Chaque partie, chaque personne a quelque chose à apporter à l'autre par ses questions, par ses doutes, par ses certitudes. Alors maintenant, hors de la communauté, nous pouvons aussi avoir ce recul et cette lecture stimulante au regard des événements de la société. Vous connaissez peut-être Karl Barth, qui était un grand théologien suisse-allemand. Il aimait à se faire représenter une Bible dans une main et un journal dans l'autre. Il nous témoignait ainsi que notre lecture devait sans cesse dialoguer avec le monde qui nous entoure. En ce moment, dans l'actualité, la guerre au Mali, les révoltes en Tunisie, le mariage pour tous, le mal logement, tous ces débats de société méritent un éclairage biblique. Certains encore parlent facilement de leur foi à leurs voisins, au travail. D'autres ont plus de difficultés. Mais si cette parole est au cœur de notre vie, il est important de ne pas nous en cacher. Premier enseignement, Jésus qui nous dit « Éloigne-toi un peu du bord », nous demande « Sors ton nez de ta Bible, écoute la parole en dialogue avec d'autres et en écho aux événements du monde ». Deuxième enseignement de ce texte, nous devons partir à l'aventure avec la parole de Dieu. Dans notre texte de Luc, Jésus demande aux pêcheurs dans les barques de jeter leur filet dans l'eau profonde. Avancez là-bas, là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour attraper le poisson. Avancez. Avancer pour ne pas rester en terrain biblique connu. Oser s'aventurer dans des textes difficiles. Nous devons faire droit à tous les textes et ne pas toujours sélectionner ceux qui nous arrangent. Trop facile. Car le texte ne serait plus alors une parole qui me bouscule, mais deviendrait un prétexte pour argumenter mes propos du moment. Un texte biblique alors esclave de mes idées, et nous serions alors loin, très loin, de la parole de Dieu qui est là pour nous délivrer de nos enfermements. Car bien sûr, vous le savez, beaucoup de textes de la Bible nous dérangent. Qui proclame en chair le Dieu guerrier, le Dieu tueur et vengeur de certains passages de la Bible ? Qui, le 25 décembre, prêche sur le massacre des innocents? Premier événement qui faisait suite à la naissance du Christ. Qui aime lire et relire les textes de jugement dernier dans les évangiles? Sans aller bien loin, un des trois textes du jour de ce matin, Ésaïe 6, que Audrey a lu en premier. Je n'en relis que quelques versets. J'ai eu une vision, le Seigneur était assis sur un siège royal, son vêtement remplissait le temple, des anges de feu étaient là, ils avaient six ailes, des ailes pour se cacher le visage, d'autres pour se couvrir le bras, saint, 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 et le Seigneur. On n'y comprend pas grand-chose. Ah si, attendez, je crois que le dernier verset, là on comprend. J'ai entendu, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Là, c'est bon là. En plus, c'est en lien avec le texte de Luc. On ne pourrait que retenir le verset 8 et enlever les sept premiers qui nous dérangent parce que nous ne les comprenons pas. mais ce serait trop facile. Ce ne serait pas faire droit à son ensemble. Il faudrait pour ce texte-là, ce que je ne fais pas ce matin, aller se replonger dans la symbolique et aller voir dans le contexte de ce texte. Un deuxième encouragement, ouvrons nos Bibles, jetons nos filets et attrapons aussi les textes où l'eau est très profonde, en demandant de l'aide si besoin. Car ainsi, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, nous remonterons de beaux poissons et nous serons nourris en conséquence pour chaque jour de nos vies. Troisième encouragement de ce texte. Dans notre relation parfois chaotique avec Dieu, il sera toujours là pour nous soutenir. Quand Jésus demande aux pêcheurs de jeter encore leur filet, souvenez-vous, ils ne veulent pas parce que cela fait déjà des heures qu'ils sont là et qu'ils n'ont rien attrapé. Ils finissent par accepter et là, leurs filets sont pleins, prêts à s'éventrer, ils remplissent deux barques. Mais non contents de ce retournement, que se passe-t-il? Eh bien, les pêcheurs prennent peur face à cette abondance de poissons. Nous sommes ces pêcheurs, éternels, insatisfaits devant Dieu. Nous demandons à Dieu de nous parler. Rien. Alors, bien sûr, nous râlons. Et puis, quand il nous parle enfin, eh bien, nous râlons encore, car il ne nous dit pas ce que nous aurions voulu entendre. De peur d'avoir d'autres réponses à nos questions, nous sommes souvent réticents à nous aventurer dans ce grand lac qu'est la Bible et réticents à aller jeter nos filets dans l'eau trop profonde. Cette semaine, un paroissien m'a reparlé de ces ressourcements spirituels appelés l'évangélisation des profondeurs. C'est tout à fait cela. Avec la parole, nous sommes invités à creuser au plus profond de nous-mêmes pour y découvrir, en écho avec notre vécu et avec nos manques, la bonne nouvelle de l'Évangile. Jeter nos filets signifie bien jeter aussi une partie de nous-mêmes. Et puis, quand nous attrapons ces paroles qui nous touchent, il est parfois difficile de garder cette abondance de nourriture. Un peu comme après un bon repas de Noël, où même si c'est vrai, nous nous réjouissions de le partager, à la fin du repas, nos estomacs trop chargés n'en peuvent plus. Mais dans ces moments de doute ou de trop-plein, comme Simon l'a entendu sur sa barque, un « n'aie pas peur » de la part du Christ arrive jusqu'à nos oreilles. Nos doutes et nos trop-pleins ne sont alors jamais trop profonds pour que notre Sauveur vienne nous y chercher et nous redonner confiance. Troisième encouragement, au cœur de notre parcours sur le lac de la parole, Jésus est avec nous sur la barque et nous encourage. Il est ce capitaine qui rassure et qui nous guide vers les eaux fécondes. Je termine. Suivre Jésus ne va pas de soi. Être son disciple n'est pas chose facile. Mais l'Évangile nous redit « aie confiance ». Sur un lac, sur un chemin ou dans nos vies, être disciple du Christ n'est pas de tout repos. Savoir prendre du recul, s'aventurer dans les eaux profondes, veiller à ce que la parole ne s'assèche pas, la garder vivante, ramer et jeter nos filets, parfois en vain, passer par des moments de doute, de peur, saisir la main qui se tend, questionner encore, cesser de vouloir tout comprendre, apprendre la confiance, jeter l'ancre, lever l'ancre et repartir encore. Appelés, nous le sommes tous, disciples du Christ, c'est notre grande route du Rhum. Et ce grand voyage, bien entendu, ne serait pas possible sans Jésus à la barre, ce compagnon formidable, capitaine mais aussi matelot à la fois, pour nous maîtres et serviteurs. Contre vents et marées, il est à nos côtés, car il est vivant. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, celui que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, par lequel vous êtes sauvés. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Écrit Paul dans sa lettre aux Corinthiens, lue tout à l'heure. Dans notre texte, Jésus transforme de simples pécheurs en pécheurs d'hommes qui deviennent ses disciples. De même avec nous, simples fidèles, il est à nos côtés pour nous faire naître en disciples. Il est là pour nous donner la vie et quand il nous la donne, il ne le fait pas semblant. Il nous la donne pleinement jusqu'à faire craquer nos filets. Alors, vous embarquez ?